Alors, bon matin, bon dimanche, et comme je dis toujours, quelle grâce hein, que le Seigneur nous accorde chaque dimanche dans sa fidélité, jusqu'à ce qu'il revienne, il nous permet de nous rassembler en toute quiétude autour de sa personne pour l'adorer, pour chanter des beaux cantiques, pour s'encourager, pour nous rappeler aussi son grand amour envers nous, sa fidélité. Jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Alors, ma prière, c'est que ce temps ensemble, à chaque dimanche, soit pour vous un temps de riche bénédiction. Un oasis ici, bas sur la terre. On sait que les semaines peuvent être difficiles, des fois, des tracas, tout cela, mais le Seigneur est avec nous. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer notre série que nous avons commencée il y a 4 semaines. Jésus, l'incomparable. Jésus, l'incomparable. Quel titre et quel beau thème pour justement décrire notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, l'incomparable parce qu'il est l'agneau impeccable. Et dans notre premier message, nous avons vu que c'était le seul être humain qui a marché sur la face de cette terre qui était sans péché. Et de ce fait, le Père a pu ouvrir les cieux et proclamer haut et fort, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve tout mon plaisir. » Je ne peux pas dire cela de moi-même, parce que je sais que très souvent, j'attriste le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ n'a jamais, jamais, jamais attristé son Père, parce qu'il est descendu des cieux, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'avait envoyé. Alors, il est l'agneau impeccable, sans péché. Nous avons vu aussi Jésus, le Sauveur souffrant, incomparable parce qu'il est le seul à cause de ses souffrances et sa mort qui était capable de nous racheter de nos péchés. La Bible dit en parlant des êtres humains, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Voilà pourquoi il est incomparable. Nous avons aussi vu Jésus, le Seigneur, ressuscité, parce qu'il est le seul qui est revenu d'entre les morts et qui vit encore aujourd'hui. Il a pu dire à ceux qui le critiquaient, « Détruis ce temple en parlant de son corps et je le relèverai dans 3 jours. » En parlant de sa vie, il a dit, « Il n'y a personne qui me l'ôte. J'ai le pouvoir de le donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et ce matin, nous pouvons proclamer hors et fort que Jésus est vivant, le Seigneur ressuscité. Si on pourrait trouver le tombeau de Bouddha, on trouverait ses ossements dedans. Si on pourrait trouver le tombeau de Mahomet, il est toujours au tombeau. Krishna, n'aimait qui que ce soit, n'importe quel leader spirituel, mais le tombeau de Jésus-Christ ce matin est vide parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu le Père, un prince et un sauveur. Voilà pourquoi il est l'incomparable. On nous raconte l'histoire d'un ancien président des États-Unis nommé Dwight Eisenhower, qui était en vacances à Denver, dans l'État de Colorado. Et un matin, il lisait le journal local, et ses yeux sont arrêtés sur un article. Au fait, c'était une lettre. Il y avait un petit garçon âgé de 6 ans, nommé Paul Haley, qui était mourant, parce qu'il était atteint d'un cancer qui était incurable. Et dans la lettre, le petit Paul disait qu'il y avait un seul vœu avant de mourir. il voudrait justement rencontrer le président des États-Unis. Et de façon spontanée, Eisenhower, qui était connu pour des gestes gracieux, a décidé d'exaucer le vœu du petit garçon. Alors, un dimanche matin, au mois d'août, une grosse limousine s'est arrêtée devant la maison de Haley. Le président est sorti, il est marché jusqu'à la porte, il a frappé. Dale Haley, qui ça c'est le père du petit garçon Paul, portant une paire de vieux jeans bleus, une chemise sale et décolorée, la barbe longue et moitié endormi, est allé répondre à la porte. Il a ouvert. Et quel choc qu'il a eu. Là, sur le seuil de sa porte, se tenait le président des États-Unis. Alors Eisenhower est entré, il a serré la main du petit garçon de Paul. Il a jasé avec lui pendant un certain temps. Et après, il l'a amené dehors pour lui montrer justement la limousine présidentielle. Ensuite, il est parti. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, des voisins et les Haley parlaient souvent justement de ce geste aimable et attentionné posé par le président à l'égard du petit Paul. Mais il y avait un qui n'était pas du tout heureux, Dale Haley, qui était pris de remords, de regrets et de honte. Mes vieux blue jeans, la vieille chemise, la barbe non rasée, se lamentait-il. Quelle manière de rencontrer le président des États-Unis. Pourquoi ce matin, se disait-il, je ne me suis pas levé plus de mon âge? Pourquoi ce matin, je ne me suis pas rasé? Et je ne me suis pas habillé un peu plus décemment. Seulement si j'avais su, les choses se seraient passées différemment. Et vous savez, frères et sœurs, un jour, nous allons recevoir un visiteur. Ce monde va recevoir un visiteur. Non pas un président, mais quelqu'un de beaucoup plus grand, beaucoup plus majestueux. Nous avons parlé de lui ce matin lors de notre première réunion. La Bible dans Apocalypse 1, 8, c'était le thème de ce matin, parle justement de celui qui s'en vient, l'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui est et qui vient, et il est quoi? Le tout puissant. Et la question que je me suis posée et je vous pose alors ce matin, c'est face à ce roi Jésus, le roi qui vient, face à ce visiteur que le monde va recevoir. Et vous savez, la Bible nous donne beaucoup de, plus de 300 affirmations dans le Nouveau Testament qui parlent justement de ce visiteur qui va venir visiter la terre. Et j'ai cité juste un texte ici dans Actes chapitre 1 au verset 11 qui nous montre justement l'assurance de son retour. Le texte nous dit que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus revient. La question que j'aimerais vous poser, qu'il fallait que je me pose ce matin, le roi revient, êtes-vous prêt? Est-ce que je suis prêt, est-ce que vous êtes prêt pour le rencontrer? Est-ce que quand il revient se présenter, frapper à notre porte, pour ainsi dire, Est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Ou bien est-ce que, de façon spirituelle, on va avoir des regrets, on va avoir les remords, on va avoir honte, parce que spirituellement, on est en train de porter de vieux blue jeans. Spirituellement, on est habillé avec une vieille chemise délabrée. Spirituellement, on est moitié endormi. Alors, quelle sera notre réaction quand nous allons voir justement ce visiteur qui, la Bible nous dit, qui s'en vient, le roi qui revient? Comment est-ce que nous allons réagir quand nous allons le voir face à face? Le roi revient. Êtes-vous prêt? Et vous savez, quelqu'un pourrait dire, mais si je savais quand il reviendra, alors j'aurais le temps justement de m'arranger pour que je sois de façon présentable devant lui. Et vous savez, dans le passé, même encore aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont concentrées, ils ont mis l'emphase sur le quand. Et vous pouvez lire des histoires, aller sur l'Internet, vous allez voir des images des personnes qui ont prédit que le Seigneur allait revenir en 2000, en 1984, en tout cas toutes sortes de théories face au retour du Seigneur, quand il allait revenir. Et même des gens aussi qui ont posé des gestes un peu bizarres. Ils ont arrêté de travailler parce que, hop, pas besoin, le Seigneur revient. Alors, j'ai un certain montant d'argent mis de côté. Alors, je me mets à part et j'attends son retour. Il y a des personnes qui ont même cancellé la police d'assurance parce qu'on n'a pas besoin de cela, le Seigneur revient. Dans quelques mois, là, on ne sera pas là parce qu'on n'en a pas besoin. Et toutes sortes de choses. Peut-être bien intentionné, mais mal placé à cause du fait qu'on se concentrait sur le quand. Et d'ailleurs, c'est assez spécial parce que le Seigneur lui-même a dit, écoute, pour ce qui est du jour et de l'heure, il n'y a personne qui le sait. Même pas les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, ce matin, je n'aimerais pas rentrer dans tout ce débat. Et vous savez, il y a trois écoles de pensée. On parle justement de ceux qui parlent d'un retour pré-trib, mi-trib et post-trib. Et je ne veux pas rentrer dedans. On n'a pas le temps justement de développer cela. J'aimerais focaliser plutôt sur le comment et le pourquoi. Le roi revient, mais comment va-t-il revenir? Et pourquoi est-ce qu'il revient? Alors, on va parler de l'accomplissement de son retour, la nature. Jésus a promis de revenir. La parole de Dieu nous enseigne, comme je vous ai dit, plus que 300 fois, on parle de ce roi qui revient. Mais ce qui est spécial avec ce retour, c'est que Jésus revient en personne, ce Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 4:16, nous lisons ceci, « Car le Seigneur lui-même. » Et quand je lis ce texte, ça me touche profondément. Vous savez pourquoi? Parce que je vois l'importance que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus ont à ses yeux. Il aurait pu envoyer Gabriel, un archange qui est puissant. Il aurait pu envoyer Michel, mais le Seigneur va se lever de son trône et de façon personnelle, il va venir nous chercher. Ça nous démontre que nous sommes importants à ses yeux. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. En personne. Mais aussi, Jésus va revenir avec puissance. La parole de Dieu nous dit, j'ai pris la version Darby, car le Seigneur lui-même avec un cri de commandement descendra du ciel. Dans votre Louis II, c'est écrit un signal donné. Mais j'aime mieux ce texte qui dit un cri de commandement. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et vous savez, ce cri de commandement nous démontre justement la puissance qui va accompagner le retour du roi. Et pourquoi un cri de commandement? Parce que quand il reviendra, il va y avoir, comme la parole de Dieu nous dit dans ce texte ici, des personnes en Jésus-Christ, sauvées par sa grâce, mais qui sont morts en Christ avant ce retour. Ils se trouvent dans les tombeaux. Et le Seigneur, quand il va descendre des cieux, il va, avec ce cri de puissance, il va ressusciter les morts. Et quelqu'un a bien dit, quand il était au tombeau de Lazare, quand il a dit « Lazare, sors !» et le mort est sorti, il était important qu'il dise « Lazare », parce que s'il avait dit « Sors !» à cette époque-là, tous les tombeaux se seraient ouverts. Mais le Seigneur va descendre du ciel ce jour-là quand il vient chercher justement son peuple avec un cri de puissance. Et les tombeaux vont s'ouvrir, les morts vont sortir. Et la parole de Dieu aussi nous dit que nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés tous ensemble avec eux. Quelle puissance, quel moment justement qui nous démontre la puissance de Dieu de ramener vivants toutes ces personnes qui sont mortes même depuis l'éternité, le commencement plutôt, de ce monde jusqu'à son retour. Une puissance extraordinaire. Et quel moment aussi de consolation. Ceux qui ont perdu des êtres chers, on sait que c'est difficile de passer par un temps pareil quand on est dans le deuil, mais ce sera un moment justement de réjouissance quand on va retrouver justement toutes ces personnes qui nous ont précédés dans la gloire, à cause de cette puissance que le Seigneur a de ramener des personnes, de les ramener vivants lors de son retour. Mais le Seigneur aussi a un but, ça c'est le comment. Mais le pourquoi, pourquoi est-ce que le roi revient? Pourquoi est-ce que Jésus va descendre des cieux? Il y a un but. Et le but c'est, nous avons mentionné ce matin, c'est de venir chercher et recevoir une épouse. Jean 14, versets 2 et 3, il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place » quand il parlait à ses disciples. « Et lorsque je m'en serai allé, » voilà les belles promesses, « je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est le désir de Dieu depuis le commencement de la création. Quand Dieu a créé un homme et une femme, il les a mis dans le jardin. On voit que le Seigneur, Dieu, promenait dans le jardin. Il y avait une communion intime avec Adam et Ève. Et on sait que cette communion a été rompue à cause du péché. Mais le Seigneur a toujours voulu avoir son peuple autour de lui. Quand il a sorti des enfants d'Israël d'Égypte, il leur a dit qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Dans l'éternité, la parole de Dieu nous dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu sera leur Dieu et il sera avec eux. Et ça, c'est un désir qui est cher au cœur du Seigneur Jésus d'avoir son peuple avec lui, avoir son épouse avec lui. Et vous savez, ça c'est aussi un sujet de joie, comme on lit dans Ésaïe 53, où est-ce que nous lisons que le Seigneur va regarder cette épouse, transformée ce jour-là, sans rides, sans taches, sans rien de semblable. Et le texte nous dit que il verra le travail de son âme. Il est mort sur la croix. Et il rassasiera ses regards. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il va voir cette épouse qu'il a rachetée avec son sang précieux à travers sa mort. Et il va dire, ça valut la peine. Quand tous les rachetés vont être là devant lui, glorifiés, transformés. Cette épouse qui est habillée dans le fin lin, qui sont les œuvres justes des saints, Jésus va regarder ça et dire, waouh! Quelle église glorieuse! Il a hâte, je suis certain, à ce jour-là. Ça, c'est le but pour recevoir une épouse. Mais aussi, il y a un autre but. Jésus va revenir aussi pour régner sur un empire. Et dans Somme chapitre 2, c'est une somme prophétique qui parle justement de ce qui se passe en ce moment. Les rois de la terre et des chefs des nations se liguent ensemble. Puis dans leur attitude, on voit que c'est une rébellion contre Dieu. Et là, nous lisons que l'Éternel rit. Il se moque d'eux. Pourquoi? Parce qu'il a roi Jésus, son roi, sur Sion, ma montagne sainte. Il a dit à Jésus, « Demande-moi et je donnerai les nations pour héritage. Tu les briseras avec une verge de fer. » Alors le Seigneur va revenir et il va régner sur cette terre et son Père lui donne justement ce royaume. Et il va justement écraser toute rébellion. Il va régner en chef suprême. Il va être le roi des rois, il va être le seigneur des seigneurs. Et c'est lui, comme nous lisons dans Philippiens chapitre 2, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et un jour va venir où Jésus-Christ va recevoir justement l'honneur et la gloire qui lui est due. Et quel contraste avec sa première venue. Il est venu comme un agneau. Ésaïe 53 dépeint justement qu'est-ce qui est arrivé. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Les hommes ont rejeté, les hommes ont craché dans son visage. Les hommes ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais ce jour-là, tout genou va fléchir. Et tout l'univers va proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel moment extraordinaire. Le roi revient justement pour avoir son épouse et pour régner sur un empire. Alors, la question se pose. Le roi revient. Êtes-vous prêt? Et si vous me dites ce matin, je ne suis pas certain si Jésus serait ici ce matin, apparaîtra ici, même avant qu'on termine cette rencontre, je ne suis pas certain comment je réagirai en le regardant. Est-ce qu'il faudrait que je baisse les yeux? Est-ce que j'aurai le courage de le regarder face à face? Alors comment pouvez-vous être prêt? Comment pouvons-nous se préparer pour ce moment? Vous savez, une bonne façon, c'est de ne pas essayer de prédire son retour. C'est plus important d'anticiper son retour. Et là, je vous ai mis une citation, enfin, c'était une prière, nommée Joseph Bailey qui a dit ceci. « Seigneur Jésus, ton serviteur Martin Luther disait qu'il n'y avait que 2 jours sur son calendrier. Aujourd'hui et ce jour-là. Aujourd'hui, ce que, où nous sommes, et ce jour-là, quand Jésus reviendra. Et c'est ce que je veux aussi. Je veux vivre aujourd'hui en fonction de ce jour-là. » Et ça fait toute la différence. Et ça, c'est la clé. Comment est-ce que nous pouvons, vous et moi, nous préparer pour ce jour? Qui s'en vient? Qu'on le veuille ou non, ce jour s'en vient. Nous avons aujourd'hui et nous avons ce jour-là. Et si nous vivons aujourd'hui en fonction de ce jour-là, je ne peux vous garantir que ça va faire tout un changement dans votre vie et dans la mienne. Et vous savez, la parole de Dieu nous en parle de cela. Ça, c'était la prière de cet homme. Mais aussi l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, 28, nous parle aussi de cette anticipation. Demeurez attachés à Christ, Jean va nous dire, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux, loin de lui au moment de sa venue. Ça, ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire la même chose. Anticiper son retour. Et la façon de se préparer, justement, pour ce jour-là, de vivre aujourd'hui en conséquence de ce jour-là, c'est de demeurer en lui. Et la raison, c'est parce que quand il va apparaître, nous ne voulons pas être comme Dale Haley, qui est allé rencontrer le président des États-Unis et qui avait des regrets, qui avait des remords, qui avait honte de la façon dont il s'est présenté devant ce grand personnage. Et vous et moi, nous allons nous présenter. La parole de Dieu nous dit qu'il nous faut tous paraître devant le tribunal de Christ. Et ce jour-là, je ne voudrais pas avoir à rougir dans sa présence. La Bible nous donne la clé. Demeurez attachés à Christ. Dans le 8 secondes, c'est écrit « Demeurez en lui ». Demeurez en lui. Pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance. C'est ce que je veux. Je suis certain, c'est ce que vous voulez, que quand le Christ reviendra, nous pouvons le regarder et l'accueillir, les bras ouverts et dire « Seigneur, oui, 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 je te vois face à face et j'ai bien content d'être dans ta présence. » Quel contraste avec si on faut qu'on baisse la tête, on a honte justement de le regarder parce qu'on est loin de sa présence. Alors, pratico-pratique, comment est-ce qu'on peut maintenant demeurer attaché à Christ? Je vais vous suggérer quatre choses. Dans un premier temps, on voit souvent, et j'ai pris ces textes dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Si vous voulez avoir un enseignement magistral complet sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, ça, c'est les deux épîtres du Nouveau Testament à lire. C'est une église dans le contexte qui a dans beaucoup de persécutions. L'apôtre Paul est allé là et il a fondé l'église. Et il y avait peut-être des fausses doctrines qui circulaient, parce que dans sa deuxième lettre, il va leur parler, il y avait des gens qui disaient que le jour du Seigneur était déjà là. Alors, Paul, il prend sa plume, il va parler à cette église et il va leur enseigner sur, justement, le retour de Christ, le retour du roi. Et on voit que souvent, à travers cette épître, il va apparier, jumeler, comportement chrétien avec justement le retour de Christ. Et dans ce premier texte ici, il va nous donner la première clé. Jésus revient, le roi revient. Alors pour ces sujets très importants d'être dans la sainteté, de travailler à cela, de marcher dans la sainteté jour après jour. Et ça, c'est la prière pour l'apôtre Paul. Il a dit, justement en parlant de ces chrétiens à Dieu, il a dit qu'il affermisse votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant notre Dieu et Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Alors, Paul, il met les deux ensemble. Jésus revient. Si je ne veux pas avoir honte dans sa présence et à rougir, mais il faut que je travaille à la sanctification. Et on a dit cela maintes et maintes fois. La Bible nous donne aussi la manière justement de se purifier. Et il n'est pas en train de dire qu'on devient sans péché. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir. Mais nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous purifier à tous les jours. Et j'ai mis ici dans le texte dans Psaume 51, pas besoin d'y tourner, mais quand vous regardez cela, voilà David, un homme qui est tombé dans un péché grave, mais qui savait où aller pour trouver la purification. Quand il rentre dans la présence de Dieu, puis il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, dans ta miséricorde, aie pitié de moi. » On voit le désir de David de retrouver cette communion avec Dieu. Et c'est tellement important parce que si nous voulons demeurer en lui, si nous voulons avoir cette communion en lui, quand 1 Jean nous dit, si nous marchons dans la lumière, quand lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et quoi, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors si on veut demeurer dans le Christ, c'est très important qu'on se purifie à tous les jours. Et ça, ça passe par la conviction, la contrition et la confession. On s'approche de Dieu, on confesse nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, on prie souvent pour un réveil. Et le réveil commence là. Dans le cœur des chrétiens, dans l'Église, individuellement et collectivement, les gens qui soupirent après justement un nouveau souffle, une flamme, une énergie, une puissance de l'Esprit pour venir et nous ramener justement dans les voies de Dieu de façon extraordinaire. Et je vous raconte l'histoire d'un jeune homme, son nom est Evan Roberts. C'était un mineur dans le sens qu'il travaillait dans les mines. Et on disait de lui qu'il était un jeune homme qui était passionné pour le Christ. Et il amenait sa Bible avec lui, même quand il allait travailler dans la mine. Il mettait cela dans une petite fente, il trouvait un petit trou, il mettait ça là-dedans. Et quand il y avait un petit break, une pause, il sortait sa Bible, il lisait, puis il mémorisait. Et ce jeune homme, à un moment donné, à 23 ans, il a quitté la mine parce que son désir était toujours d'être un prédicateur de l'Évangile. Alors, il est allé justement à une école pour se former. Et pendant des mois, il était devant le Seigneur, visage contre terre. Il plaidait justement, il venait du pays de Galles. Et il plaidait justement au Seigneur pour un réveil, un réveil, un réveil. Et on nous dit que le Saint-Esprit et le Seigneur, justement, a souscité dans ce jeune homme à une puissance que le monde n'avait pas vue avant. Il y avait eu un réveil avant 40 ans, mais là, il y avait un jeune qui soupirait, encore une fois, de voir des gens venir au Seigneur. Et à cause de sa prédication, il est allé... Justement, il a quitté, il a fini ses études, il est allé, il avait juste un seul désir. Il a dit qu'il avait un seul désir, c'est de parler de Jésus-Christ. Et le Seigneur a utilisé ce jeune homme, 26 ans, pour effectuer un grand réveil au pays de Galles. Vous pouvez le lire, vous allez sur l'Internet et tapez Evan Roberts, vous allez voir. Et des gens venaient, des dizaines de milliers de personnes qui ont été converties à l'Évangile à cause d'une personne. Ça a commencé et ça a fait boule de neige. Un homme. Et qu'on nous dit souvent que les réveils commencent comme cela. Une personne, un petit groupe qui prie, qui persévère, qui se purifie, qui cherche la face du Seigneur. Et ça me fait penser à ce beau texte dans 2 Chroniques 7, 14, où le Seigneur a dit ceci. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, le réveil commence là. Une purification. Purification en vue du retour du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, prudent dans le service. En attendant son retour, on voudrait être prudent dans le service. Encore une fois, l'apôtre Paul, il fait l'éloge à cette église. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils. Vous voyez la connexion? Encore une fois, le retour du Seigneur, la pureté. Le retour du Seigneur, le service. Les deux vont ensemble. Et cette église n'était pas une église qui était oisive. Je pense ici à Luc chapitre 19. Encore, le Seigneur nous donne le même enseignement, mais de façon un peu différente. Il part d'un homme qui s'en va dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Et ça, c'est lui qui part. Parce que quand il part, les hommes ont envoyé une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais là, il appelle ses serviteurs. Il leur donne à chaque 10 serviteurs, il donne à chaque serviteur une mine. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Si vous êtes un enfant de Dieu ici ce matin, le Seigneur est parti, mais il vous a donné une mine. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cela? Parce que le maître est revenu un jour, il a appelé ses serviteurs. Puis il les a demandé de rendre compte de ce qu'il leur avait donné. Et vous savez, il y a un qui est venu, il a dit, « Maître, ta mine, j'ai gagné 10 avec. » Et le Seigneur lui fait l'éloge, « Bon et fidèle serviteur, je te donne l'autorité sur 10 villes. » Là, il y a l'autre qui arrive, il dit, « Ah, ta mine a apporté 5 mines. » Il dit, « Ah, tu étais fidèle à ce que je t'ai donné. Tu vas avoir aussi l'autorité sur 5 villes. » Il y avait un, par exemple, qui a dit, « J'ai caché ce que tu m'as donné dans un linge, parce que je sais que tu es un homme sévère, et ainsi de suite. » Et vous savez, cet homme-là a perdu sa récompense. L'apôtre Paul, il parle justement des personnes qui vont être sauvées, mais à travers le feu. Frères et sœurs, nous avons la capacité. Nous avons ici au Québec les opportunités, les occasions sont là, on n'est pas persécuté pour notre foi. Que le Seigneur nous secoue, nous réveille pour que nous soyons de ceux qui vont dire, oui, le maître revient, il m'a confié quelque chose, quand il reviendra, je ne voudrais pas avoir honte quand il va me demander de rendre compte du don qu'il m'a donné. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Troisième manière aussi de se préparer pour le retour du roi, demeurons passionnés pour la semence. Encore une fois, pour prendre cette église, c'est une église modèle, je vais vous dire. Mais on voit encore ici le contraste. Une église comme l'apôtre Paul, vous avez reçu la parole de Dieu au milieu des tribulations et des persécutions. Et malgré cela, il a pu leur dire, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe. C'est une église qui évangélisait, qui semait la parole de Dieu en attendant le retour du Seigneur. De façon fervente, il annonçait la parole de Dieu. Et vous savez, je vais vous faire une promotion ce matin pour justement les activités de cette église pendant la période estivale. Vous savez, l'été s'en vient. Pendant de nombreuses années, cette église, nous nous sommes impliqués dans ce qu'on appelle les fermiers chrétiens. Et voilà une manière pratique de semer la parole en attendant que le Seigneur revienne. On n'est pas, on ne devrait pas être concerné avec les résultats. Ça appartient au Seigneur. Mais soyons fidèles pour la semence. Et là, on va y avoir l'expo de Trois-Rivières. Il va y avoir Trois-Rivières en blues. Il va y avoir le Festival Western de Saint-Tite. Il y a deux occasions où est-ce que les gens vont venir. On leur dit, oui, venez prendre un cadeau qui est gratuit. Mais en même temps aussi, on leur annonce l'Évangile. Quelle manière pratique. Imagine qu'on serait en train de faire cela, puis le Seigneur revient. Ce serait extraordinaire, hein? De nous trouver justement en train de semer l'Évangile lors de son retour. Hey, j'imagine que le Seigneur serait... Ah, wow! Regarde mon peuple! Ils ne sont pas endormis. Ils sont en train, justement, jusqu'à la dernière minute, en train de semer la parole de Dieu. Et la dernière chose, quelqu'un a mentionné cela aussi, le Seigneur revient d'être patient dans la souffrance. L'apôtre Jacques va nous dire ceci, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et ça, c'est tellement pratique. Tellement pratique. Et je pense qu'il y a deux aspects de cela. Il y a un aspect, quand on est dans les difficultés, vous savez, souvent, on peut dire, OK, on veut que le Seigneur revienne pour justement me sortir du pétrin, là. C'est finir les bobos, finir ci, tout ça. Mais il y a deux choses là-dedans. Dans un premier temps, la patience de justement d'endurer et de supporter cette souffrance que le Seigneur permet, sa grâce est toujours là pour nous aider, comme il a dit à l'apôtre Paul. Et avez-vous pensé que si chaque fois qu'on souffre, puis on crie au Seigneur, viens me chercher, là, je ne suis plus capable, je vais être libéré de ça, puis m'en vais dans le paradis. Mais pense aux personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. T'sais, on peut être concentré sur nous-mêmes. Et je ne veux pas non plus minimiser justement les souffrances et les difficultés. Mais quand on est capable de les endurer, le Seigneur est patient, ne voulant qu'aucun périsse. Est-ce que cette patience qu'il peut nous donner peut nous dire, OK, je veux endurer cela, je peux endurer cela, sachant que, oui, jour après jour, mais à chaque jour que le Seigneur permet que ça continue, il n'est pas encore revenu, il y a des âmes qui sont sauvées, qui rentrent dans le royaume éternel du Seigneur. Hein? Ça serait extraordinaire. Et Jacques était en train d'encourager ces chrétiens. Mais l'autre côté de la médaille de cela, c'est de dire, écoute, si le Seigneur permet justement que je passe par un moment difficile, c'est juste pour un peu de temps. Soyez patients. Un jour, ça va terminer. Un jour, ça va être fini. Un jour, j'aurai justement, je vais ressembler au Seigneur. Je vais justement avoir tout ce dont il en a besoin, justement, pour être dans sa présence, pour me réjouir de sa présence. Et comme l'apôtre Paul dit, écoute, nos légères afflictions pour le moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Paul, il est arraché, Paul. Il est goûté. Mais qu'est-ce que Paul disait? Je sais, je passe par là, c'est difficile, mais je sais qu'un jour, ça va être fini. Et ça va être une récompense. Alors, je peux, par la grâce de Dieu, endurer ces difficultés pour le moment présent. Voilà comment, alors, anticiper le retour du Seigneur. Sois pur dans la sainteté. Soyez prudent dans le service. Soyez passionné pour semer la parole. Et soyez patient dans la souffrance. Et si vous mettez ça en pratique, et si je mets ça en pratique, quand le Seigneur reviendra, on n'aura pas à avoir honte, on n'aura pas à rougir, parce qu'on ne serait pas loin de sa personne, on serait attaché à lui. Alors, on revient à la question, le Seigneur revient, êtes-vous prêt? Et j'aimerais vous laisser avec deux choses pratiques, toujours pratiques, la parole de Dieu. Et quand j'ai préparé ce message, je me suis posé la question maintenant, ces quatre choses, pur dans la sainteté, prudent dans le service, passionné pour semer la parole de Dieu et la patience dans la souffrance. Quelle chose, quel aspect justement devrais-je changer? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour que je puisse avoir cette assurance de ne pas avoir honte devant le Seigneur quand il va apparaître? Et je sais qu'est-ce que je dois changer. Je sais. Mais ce matin, maintenant, je vais vous demander, vous qui êtes ici ce matin, de demander au Seigneur de vous éclairer. Qu'est-ce qu'il faudrait changer face à son retour pour que nous soyons prêts à l'accueillir? Et si ce matin, je termine avec cela, vous n'êtes pas en lui parce qu'on ne peut pas commencer à changer des choses dans notre vie si on n'est pas premièrement en lui. Ça commence là. Et comment est-ce qu'on se prépare pour le retour du roi? Si vous êtes sauvé, oui, on demeure en lui. On ne va pas avoir honte, on ne va pas avoir à rougir. Je vous donnais les quatre choses à faire. Mais si vous n'êtes pas en lui, il y a un premier pas à faire, c'est d'être en lui. Et ça passe par les mêmes choses que j'ai parlé dans Psaume 51. Reconnaître justement le péché. David, quand il a péché, il est allé devant Dieu, il a dit, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et la parole de Dieu nous dit ceci, que tous ont péché, se sont privés de la gloire de Dieu. C'est catégorique, comme je vous ai dit ce matin, il y avait un seul qui n'a jamais péché, c'était Jésus-Christ. Nous tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais Dieu, dans son grand amour, parce qu'il nous aime, il aime sa création, ne voulait pas que nous soyons bannis de lui pour l'éternité. Il a trouvé une solution. Et cette solution, c'est la croix, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par amour, est allé sur la croix payer la dette, la pénalité de nos péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est merveilleux. Et pour tout pécheur repentant qui va devant Dieu, qui admet qu'il est pécheur, qu'il est pécheresse, et tourne vers Jésus et dit, j'accepte ce que tu as fait à la croix à ma place. Dieu, dans sa parole, donne l'assurance que cette personne-là va recevoir le pardon de ses péchés. Pourquoi? Parce que la dette a déjà été payée. Alors, si ce matin vous êtes ici, vous n'êtes pas en Jésus-Christ, je vous invite, ce moment même, de tourner vers le Christ, confesser vos péchés et de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. La semaine prochaine, on va faire un retour sur un message qui a été donné par notre frère Marc Rochette. Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous, vous avez sans doute des enfants qui sont grands maintenant, qui sont plus à la maison, mais qui ne sont pas au Seigneur, et c'est un fardeau que vous portez. Je partage ça aussi parce que moi aussi, j'ai un enfant qui n'est pas au Seigneur. Marc Rochette viendra justement nous donner le deuxième message, comment dans ce contexte retrouver mon enfant a perdu. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta personne. Tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Merci Seigneur qu'un jour tu vas revenir. Et comme nous avons vu ce matin, il y a deux possibilités. Que nous puissions t'accueillir les bras ouverts, avoir de l'assurance dans ta présence, ou bien que nous soyons dans la honte parce que nous sommes éloignés de toi. Seigneur, tu connais nos cœurs. Il n'y a rien qui est caché à ton regard de flamme. Et ma prière, c'est que tu puisses, comme le psalmiste a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ma prière, Seigneur, pour moi-même et pour mes frères et mes sœurs. Nous voudrions tous, Seigneur, paraître dans ta présence avec assurance. Alors montre-nous, Seigneur, là où est-ce qu'il faut corriger des choses. Montre-nous, Seigneur, des choses qu'il faut se débarrasser, qui nous empêchent de courir avec persévérance cette course qui est devant nous. Seigneur, montre-nous, Seigneur, où est-ce que le péché nous fait trébucher. Donne-nous la victoire, Seigneur. Donne-nous une compassion pour les âmes qui périssent. Donne-nous l'amour, Seigneur, pour ces âmes, afin que nous puissions aller semer la parole pour qu'ils soient sauvés. Et s'il y a quelques-uns qui souffrent ce matin, Seigneur, donne-leur la patience, parce qu'un jour, tu vas revenir et tu vas récompenser, Seigneur, ce qu'ils ont fait pour toi. Et s'il y a quelques-uns parmi nous qui ne te connaissent pas, notre Dieu, tu es un Dieu de grâce, de miséricorde. Tu ne veux pas que le pécheur périsse. Tu as envoyé ton Fils pour que justement pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ô Seigneur, fais une œuvre spirituelle ce matin. Sauve des âmes, Seigneur. Nous demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.